voix nue. Cette semaine, Jean-Christophe Brianchon rencontre Claude Zidi. Ce soir, l'apprentissage du cinéma.
Claude Zidi, bonsoir.
Bonsoir.
Ce nom, le vôtre, résonne comme un symbole, celui de la comédie française au cinéma, puisque depuis 1971 et l'inscription de ce patronyme en haut des affiches pour la sortie des Bidas en folie, votre premier film en tant que réalisateur, vous avez contribué avec force à la gloire d'un art, le cinéma, qui pourtant n'a jamais daigné faire à la comédie populaire dont vous étiez un représentant majeur la place qui lui est due. Plus de 80 millions de spectateurs plus tard et bientôt 17 ans après la sortie de votre dernier film en salle, Les Ripoux 3, nous allons ici et pendant une semaine tâcher humblement de réparer ce manquement et de retracer les grandes lignes de votre parcours. Un parcours qui va nous mener de l'anonymat parisien dans lequel vous êtes né en 1934 aux montagnes d'un box-office dont vous êtes le seul, avec André Hunebel et Henri Verneuil, à avoir côtoyé les cimes en tant que troisième réalisateur français ayant généré le plus grand nombre d'entrées de l'histoire du cinéma hexagonal. Beaucoup de choses à nous dire donc entre les murs de votre bureau dans lequel vous avez la gentillesse de nous recevoir, et ce d'autant que votre parole se soit faite rare, très rare même, au fil de ces 50 années de carrière. Une raison à cela peut-être, et par laquelle nous allons débuter aujourd'hui pour évoquer vos débuts et votre apprentissage du cinéma, votre discrétion absolue, une discrétion qui vous amène aujourd'hui encore à vivre dans l'anonymat, et vous a fait dire un jour cette jolie phrase « Le champ de la caméra, c'est là que se passe ma vie, je ne vois pas au-delà ». Cette phrase donc que vous avez dite au détour d'un entretien pour la sortie du film 2 avec Gérard Depardieu et Maroushka Detmer, vous nous diriez qu'elle vous caractérise encore aujourd'hui ?
En tout cas, sur un tournage, oui, j'avais tendance à ne voir que ce qui se passait devant la caméra, et pas derrière et sur les côtés. Voilà, j'étais vraiment très préoccupé par l'espace qui se passe devant la caméra, tout ce qui peut arriver, tout ce qu'il faut, voilà. Donc, je me suis pas tellement penché sur les problèmes annexes, voilà.
Est-ce que c'est aussi peut-être une manière de nous dire que vous avez vécu votre vie par et pour le cinéma et déconduire peut-être gentiment les gens qui voudraient chercher à comprendre votre œuvre et vos films autrement que par simplement ce qui se passe dans le champ de la caméra ?
Écoutez, moi je suis pas sûr d'avoir compris ce que j'ai fait, alors vous pouvez essayer. Hein.
Alors on va essayer.
Mais je cherche pas trop à comprendre. Vous voyez, je vis les choses, mais bon, je les accepte avec plus ou moins de bonheur, mais les comprendre, c'est fatigant. Alors, puis ça vous embarque sur des pistes, oui. Non, je n'ai jamais fait de psychanalyse.
Alors, on n'est pas là pour faire de votre psychanalyse.
Si, de film peut-être.
Votre psychanalyse de film, en tout cas, votre film-analyse, peut-être. Je ne sais pas si on va essayer de comprendre, nous aussi, mais en tout cas, on va essayer d'établir le cadre, un petit peu dans lequel tout ça s'est fait. Comme je le disais, vous êtes né en 1934, à Paris, d'un père d'origine algérienne, et donc Paris a été le décor de votre enfance, celui aussi de certains...
Plutôt la banlieue, d'ailleurs. Parce que, non, je n'ai pas... J'ai vécu... Pavillon sous bois, Montfermeil, banlieue Est d'abord. Et voilà. Et puis éventuellement la banlieue Ouest, Rueil-Malmaison, et bon, entre autres. Oui, j'ai pas mal la banlieue, Sèvres, Versailles, enfin. Et puis Paris, mais oui, Paris aussi, quoi. Même petit quand même. De temps en temps, je découvrais Paris.
C'est un décor que vous avez aimé, que vous avez rêvé, parce qu'on le voit dans vos films, je pense au Ripoux, par exemple, ou Paris.
Ah oui, j'adore Paris, oui. Je marche beaucoup dans Paris.
Encore aujourd'hui ?
Oui, je m'arrive de faire 5, 6, 7 kilomètres par jour, oui.
Il y a une nostalgie de ce Paris de votre enfance, peut-être ? Une nostalgie que je trouve parfois on sent poindre dans certains de vos films.
Ah oui, une bonne nostalgie d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'il y a des quartiers qui ont évolué, quoi, qui n'ont plus la même saveur qu'avant, quoi. Quand vous voyez les... Bon, par exemple, je prends un quartier, les Halles, la rue Saint-Denis, ça a beaucoup, beaucoup changé, quoi. C'est plus tout à fait la même population.
Et puis un jour, d'ailleurs, dans les rues de Paris, rue de Vaugirard, vous tombez donc sur...
J'habitais rue de Vaugirard, et puis dans rue de Vaugirard, il y avait une école de cinéma. À l'époque, il y en avait deux. Il y avait l'IDEC, qui formait les metteurs en scène, Et le TPC, École technique de photo et cinéma, rue de Vaugirard, qui est devenue ensuite École nationale de photo et cinéma. Et voilà, alors tous les jours en allant au lycée Henri IV, je passais devant. Et je pensais que c'était une école désaffectée. Parce que c'est vraiment, elle n'était pas en ruine, mais elle n'était pas en forme, quoi. Et puis un jour, j'ai vu une fenêtre, un jeune avec une caméra, je crois que c'était une Beaulieu 16, qui filmait. Je me suis dit, mais alors c'est peut-être vraiment une école de cinéma ouverte et accessible. Alors je me suis renseigné. J'ai demandé comment on pouvait rentrer. Ils m'ont dit, mais il y a un examen d'entrée. Et j'ai passé l'examen d'entrée, j'ai été reçu. Et j'ai fait 2 ans de scolarité d'études, cinéma, très diversifié, hein, vraiment. Le cinéma, l'optique, la chimie, un peu de mise en scène, les caméras, etc.
Et à cette époque-là, au moment où vous rencontrez cette école, quelle place avait le cinéma dans votre vie?
J'étais pas plus souvent au cinéma qu'au lycée, mais presque, quoi. Oui. J'essayais d'aller deux fois, trois fois par jour au cinéma. Oui.
Et un premier souvenir de cinéma, peut-être j'ai entendu parler en 1949 que vous étiez allé ou que vous aviez rencontré le tournage de Rendez-vous de Juillet de Jacques Becker.
C'est dans la rue, tout d'un coup, dans Paris, vous tombez sur un tournage de film. C'était assez rare, hein, parce que beaucoup de tournages, tous les tournages se faisaient quasiment en studio. De temps en temps, ils étaient obligés de sortir dans la rue, évidemment. Et là, c'était Place du Trocadéro, Rendez-vous de Juillet, avec Daniel Jelin, et dirigé par Becker. Et là, je suis le groupie de tournage par excellence, quoi. Je peux rester des heures à regarder une équipe qui tourne. Et une équipe qui tourne, ça bouge pas beaucoup, en général. Voilà, vous voyez, chacun fait son travail, mais souvent, il y en a un qui travaille et tout le monde l'attend. Bon, il installe quelque chose, etc. Bon, c'est relativement, vu de l'extérieur comme ça, c'est relativement lent. Oui. Mais ça fait rien, je pourrais y rester des heures.
Vous vous êtes trouvé spectateur de ce
tournage? Oui, j'ai vu quelques tournages de films comme ça par hasard. Touchez pas au gris, rue Blomet, près de la rue de Vaugirard, vous voyez. 15e. Voilà, avec Gabin qui descendait d'un taxi ou d'une voiture et qui rentrait dans à l'époque c'était le Bal Nègre, je crois. Et voilà, c'est tout. Je suis resté des heures à regarder, c'était long pour éclairer une rue à l'époque. Il fallait mettre d'énormes projecteurs sur des tours, etc. Voilà. Et puis d'autres films comme ça, au hasard, des promenades dans Paris, quoi.
Et alors, à l'école Vaugirard, vous dites une formation diversifiée, une formation technique. Qu'est-ce que vous y avez?
Technique, chimique,
une formation
optique, voilà, vous voyez, de caméra, la mécanique des caméras, voilà. C'était
utile.
Et puis un peu de tournage quand même. On avait un petit studio et on essayait de tourner des brides de courts-métrages, quoi.
Et puis des rencontres aussi, puisque vous étiez là-bas avec Yves Rodalec, qui a par la suite été un de vos collaborateurs.
Oui, Yves Rodalec. Oui, on n'était pas très nombreux. On était une vingtaine d'élèves, dont la moitié étrangers.
Étrangers?
Oui, d'origine libanais, Égypte, Hollande, enfin vous voyez, un peu, oui.
Ce réseau-là vous a servi ensuite, une fois que vous êtes rentré dans la vie professionnelle?
J'ai commencé dans le cinéma parce que j'avais appris dans cette école à développer la pellicule couleur, c'est le début de la couleur en France, à développer la couleur et à tirer des positifs sur des petits morceaux de film de 50 cm, vous voyez, que l'on prenait en fin de bobine sur le tournage. Donc on m'a demandé de faire un stage sur un film qui s'appelait Marguerite de la Nuit de Claude Autant-Lara, avec Montand et Michel Morgan.
C'était en 1955, je crois.
Absolument.
C'est un bon souvenir?
Oui, c'est un grand souvenir, parce que c'était en décor, un film en décor, décor de Max Douy et à Joinville, et des décors assez très interprétés. Par exemple, ils avaient construit une station de métro, mais assez simplifié, quoi. Voilà, qui n'existe pas. Enfin, c'était quand même ça avait la dimension, mais c'était très stylisé. Et puis d'autres décors, évidemment.
Et puis après l'école, il y a eu le service militaire qui a interrompu un petit peu votre carrière, je crois.
Enfin, votre carrière. J'avais commencé à tourner, effectivement, comme deuxième assistant sur plusieurs films, Allégret, Duvivier, Berthomieux, etc. Boiron, etc. Et puis un jour, est arrivé la feuille de route, un 23 décembre, vous voyez, parti en Allemagne.
Cadeau de Noël.
Un 23 décembre, c'était formidable. Ah oui, ça, je fuyais Noël en famille.
Alors vous êtes parti en Allemagne. En Allemagne, puis en Algérie ensuite, je crois.
Oh là là, j'ai fait l'Allemagne, Maroc, Algérie. Oui, oui. J'aurais préféré Tahiti, parce que... Mais non.
J'ai lu que vous disiez que c'était que vous l'aviez vécu comme une aventure, ce service
militaire. Oui, oui, oui. D'abord, j'avais très peu voyagé, vous voyez. Non, j'avais jamais pris l'avion, j'avais très peu... Bon, j'avais peut-être été... Oui, j'avais vu la mer, quand même, à Trouville. Voilà, c'est tout. Vous voyez, pendant... On voyageait beaucoup moins à l'époque. J'ai jamais pris l'avion, évidemment, j'ai jamais pris le bateau, et là, et un peu le train, et là, tout d'un coup, c'était les voyages, quoi. Vous voyez, l'Allemagne, Koblenz, la découverte d'un pays, et ensuite tout le trajet entre l'Allemagne et le Maroc, avec un arrêt à Marseille. Bon. Et puis ensuite l'arrivée pour aller au Maroc en bateau. Enfin, un bateau avec un transport de troupes. Hein. C'est spécial. Hein. Et puis ensuite, quand on arrive à Gaza, ben, on vous met dans des wagons de marchandises qui venaient de transporter des moutons, vu le nombre de crottes de moutons qu'il y avait par terre. Et puis on se retrouve à El Adjeb, qui est au-dessus de Meknès, dans un immense camp de toiles de tente avec environ 5000 militaires d'horizons différents. Et c'est voilà. Puis après, on se retrouve à la frontière du Maroc et de l'Algérie, là, monter la garde. On voit rien. C'est le désert des Tartares. On attend ce qui se passe et on attend qu'il se passe quelque chose. Il ne se passe pas grand-chose.
Mais vous y avez fait aussi un peu de cinéma, donc à Alger, je crois.
Alors après, j'étais une école d'EOR, d'officier de réserve, près de Cherchel, près de 100 km d'Alger. Je suis sorti sous lieutenant et puis j'ai été au service cinéma des armées, à Alger. Voilà. Et là, j'ai filmé, de temps en temps, la plupart du temps, j'ai filmé des inaugurations, pas filmé la guerre.
Ça vous a servi, peut-être, techniquement, ou ça vous a intéressé, au moins ?
Ah oui, c'était passionnant, oui. Oui, oui. Oui, évidemment, oui. Le voyage jusqu'à Tamanrasset, Rasset, oui, au fin fond du Sahara, Tindouf, la frontière algéro-tunisienne. Oui, c'était quand même... Oui.
Et puis ensuite...
J'ai croisé là-bas de Broca, qui était aussi au service cinéma des armées à Alger.
De Broca, qui fait partie donc des gens que vous aurez rencontrés. Et
qui a fait l'école de Vaugirard aussi, d'ailleurs.
En même temps que vous ?
Non, 2 ans avant.
2 ans avant.
Un ou 2 ans.
Et puis en revenant, alors, vous commencez vraiment votre carrière par plusieurs collaborations en tant que technicien, assistant opérateur, puis chef opérateur.
Assistant opérateur, deuxième assistant, premier assistant, caméraman et directeur de la photographie. Voilà.
Alors vous commencez déjà avec des grands noms, puisqu'on voit dans votre filmographie déjà le nom de Franju pour La tête contre les murs.
Oui, Franju, il fait 2 films avec Franju comme assistant. Donald Valcroze, il y en a beaucoup. Là, attendez, il y en a énormément.
Bah, j'en ai quelques-uns.
Et puis des Américains, Martin Ritt, Paris Blues. J'ai même tourné avec Jane Kelly, qui a fait un film comme metteur en scène, qui s'appelait Gigot, clochard de Paris. J'ai tourné Le jour le plus long, Le train de Frankenheimer, avec Burt Lancaster, Paris brûle-t-il. Des gros morceaux. Puis avec Rivette, la religieuse. Vous voyez, c'est... Puis beaucoup avec Chabrol.
Ça, c'est des choses qu'on sait peu, finalement. Entre autres, par exemple, votre passage chez Rivette. Certains ont beaucoup aimé vous réduire à un cinéma comique et très populaire. En fait, voilà, vous avez travaillé sur la religieuse de Rivette.
Ah oui, mais je faisais le cinéma des autres. Là, je faisais pas le mien.
Oui, mais malgré tout, vous y avez travaillé, vous avez participé à la confection de ces images.
Absolument. Mais enfin, bon, le film, c'est le metteur en scène qui est responsable du film, artistiquement parlant.
C'est un cinéma qui vous parlait, sur lequel vous avez aimé travailler, le cinéma de Rivette, par exemple.
Vous savez, on tourne dans des films très différents et on ne sait absolument pas ce que va... On tourne les plans, on enchaîne les plans, mais on est incapable d'avoir une vision du film tel qu'il sera à l'arrivée. C'est très morcelé, le travail de... On fait un plan, puis un autre plan, on ne sait pas où il va se situer, toujours. Le montage va bousculer tout ça, voilà. Et puis on est intéressé par ce qui se passe devant la caméra. C'est quand même, il faut cadrer les acteurs et éviter de cadrer le micro. Mais le micro, il est toujours pas loin des acteurs. Ça, c'est voilà. Donc c'est tout un travail. Et voilà, on pense pas à la globalité du film. Quoi.
Ça vous a donc donné aussi l'occasion. De voir de près, si ce n'est de côtoyer, vous parliez des films américains, des grands films américains sur lesquels vous avez tourné, donc de côtoyer déjà, ce qui sera par la suite le cas en France, mais de côtoyer déjà des grandes célébrités qui peut-être faisaient partie de votre imaginaire.
Oui, quand vous tournez avec John Wayne, quand même, vous cherchez le cheval d'abord, mais comme c'est le jour le plus long et qu'il est dans un décor de forêt habillé en cours, vous voyez, en militaire américain, bon, John Wayne, vous voyez, ou
d'autres aussi que vous avez
entre
croisé.
Autres, hein. Oui, il y avait tout le monde, que tout le monde passait, quoi.
Ça a été
c'est impressionnant, quoi.
C'est un bon souvenir aujourd'hui ou c'était parce que ça devait être des tournages difficiles. Le jour le plus long, c'est quand même un tournage qui a fait date aujourd'hui, dont on parle comme ayant été démesuré, difficile.
Oui, c'était non difficile, non. C'est des passionnants parce que vous avez une mise en œuvre de moyens considérables. Je me souviens quand on a fait l'attaque du commando français à Ouistreham, on a tourné ça à Port-en-Bessin, mais dans l'histoire, ils attaquaient le casino de Ouistreham. Vu d'hélicoptère en plan séquence, vous voyez, c'est quand même avec des trucs qui explosent, les soldats qui courent, des impacts de balles, etc. Et le plan dure une minute et deux minutes, c'est quand même un plan rare. Oui.
Et puis après, il y a eu Chabrol, vous le disiez.
Alors j'ai fait une dizaine de films avec Chabrol, comme caméraman, oui.
Entre 63 et 70.
Oui.
Comment la rencontre s'est faite avec lui?
Ah. Bon, alors, attendez, je creuse dans mes souvenirs. J'étais pressenti pour être... J'ai commencé d'ailleurs comme assistant, pas comme caméraman, sur Landru. Donc, c'est le chef opérateur, Rabier, qui cherchait un assistant opérateur. Voilà. Donc, j'étais présenté à Chabrol. Il n'a pas dit non. Voilà.
Ça a été une rencontre humaine forte.
Oui, parce que c'est lui qui m'a fait passer caméraman, par exemple. Vous voyez, alors que j'avais jamais été caméraman, donc il a fait confiance. Vous voyez, puis on avait des relations très très amicales. Oui, on se comprenait sans. Chabrol a essayé de donner le minimum d'indications. Il voulait pas trop parler du plan qu'il allait faire. Il fallait le découvrir avec lui, quoi. Voilà, il voulait. Il avait l'impression de s'il racontait le plan, que le plan n'avait plus d'intérêt. Donc il ne la racontait pas. Donc fallait la mise en place se faisait comme ça. Bon, tu mets un travelling là, de là à là. Bon, on mettait le travelling. Alors les acteurs, ils viennent nous la porte de gauche, la porte de droite. On va voir. Voilà. Vous voyez, c'était comme ça. Puis peu à peu, le plan se mettait en place. Et moi, souvent, je découvrais vraiment le plan. À la première prise, quoi. Bon, mais c'est pas grave, vous avez une deuxième.
Alors, on parle de ces grands noms-là, ces grands noms populaires, on va dire, Chabrol, Gene Kelly, Audrey Hepburn, mais il y a eu aussi des rencontres, aussi bien avec Chabrol que sur ces films américains, de grands techniciens aussi, qui peut-être vous ont appris à faire votre métier de réalisateur par la suite. Je pense à Henri Alcan ou Freddie Young, avec lesquels
vous avez travaillé. Charlie Lang Jr., avec qui j'ai fait Charade et Paris Winnie Sizzles, qui est vraiment l'opérateur hollywoodien, l'opérateur de stars. Vous voyez, il savait éclairer les stars. d'une façon hollywoodienne.
Ça s'éclaire différemment, une star ?
Alors, ça s'habille différemment, ça se maquille différemment, ça se coiffe différemment, ça s'éclaire différemment, ça joue peut-être différemment. Et puis, voilà.
Ça a été un apprentissage précieux, cet apprentissage technique de terrain après la formation théorique à l'école. Ça a été précieux dans votre métier de réalisateur, de metteur en scène.
C'était... Bah écoutez, j'ai vu tellement de tournages différents, des tournages avec énormément de moyens, et puis des tournages caméra à la main, ou caméflex qui fait du bruit, etc. On est obligé de tout doubler à l'arrivée. Bon. Vous voyez, voilà, donc c'est tout ça, tout l'ensemble de choses. Cet ensemble de choses apprend, évidemment, plus ou moins consciemment. Hein, ça rentre comme ça, voilà, sans réaliser la chose. Quoi.
La débrouille, en fait.
Bah, peu à peu, oui. On apprend d'abord à vivre un plateau. Comment fonctionne un plateau de cinéma, vous voyez, c'est... Quand j'ai mis la première fois le pied sur un plateau de cinéma, j'ai rien compris. Vous voyez, je sais pas qui fait quoi, qui, je sais même pas qui le metteur en scène, j'ai pas repéré tout de suite. Parce que peut-être qu'il était ailleurs en train de parler à quelqu'un. Vous voyez, peu à peu, vous arrivez à déchiffrer quand même qui joue quoi, quel rôle. Je crois que c'est, voilà.
Vous aviez peut-être déjà un petit peu compris et observé au travers des tournages que vous aviez croisés dans les rues.
Enfin, sur un plateau, en décor, de cinéma, là, quand même, c'est beaucoup plus concentré. Et puis, peu à peu, vous savez qui est le maquilleur, la maquilleuse, l'accessoiriste. Bon, c'est quoi un accessoiriste? Vous saviez pas. Puis vous apprenez que son rôle est très important. Quoi. Si l'accessoire ne fonctionne pas, on attend.
Surtout dans vos films, où les accessoires
surtout
ont été importants.
Surtout dans mes films, oui.
Et l'ambiance de plateau, vous parliez de l'ambiance de plateau chez Chabrol, qui était peut-être particulière, différente.
Oui, c'est une ambiance très décontractée, il y a des ambiances plus tendues, il y a des moments plus tendus que d'autres, il y a des... voilà. Oui, les ambiances de plateau américains sont différentes, parce qu'ils sont très disciplinés, les acteurs sont disciplinés. Et le travail, les acteurs n'arrivent qu'au dernier moment, vraiment. Donc il y a tout un travail qui est doublure. Vous éclairez pendant... Bon, le chef opérateur peut éclairer pendant une heure, et puis après, l'acteur vient, et il tourne 5 minutes, et puis il repart.
Voilà. On parle des films de Chabrol, on est bientôt à la fin des années 60, 70. Vous avez passé mai 68, je crois, vous, à Châteauroux.
Oui, Le Blanc, dans l'Indre, dans la Brenne.
Sur un film sur le tournage d'un film de Cécile Laurent.
Oui, un film qui s'appelait 48 heures d'amour. Jacques Laurent. Ou Cécile Saint-Laurent.
Cécile Saint-Laurent, comme il s'appelait.
Voilà. Oui. Et donc, le film s'est arrêté. La grève a été décidée par le syndicat du cinéma. Et donc, les films qui tournaient, il n'y en avait pas beaucoup à l'époque, je crois qu'il y en avait 7, sont arrêtés de tourner. Et je suis revenu à Paris.
Vous avez vécu cette ambiance de mai 68, vous l'avez vécue, comprise ?
Ah oui, je l'ai vécue, oui, j'ai été à la... Il y a eu les états généraux du cinéma à Suresnes. Oui, c'était fascinant, quoi. Oui, tout le monde parlait, il y avait des tas de projets incroyables, etc. Oui. Il y avait le projet Chabrol, projet numéro 4, je crois.
C'était quoi ?
Alors son projet, c'était de... La gratuité du cinéma.
Pour les spectateurs.
Oui. Alors, il a quand même, lui, il a dit un petit bémol, parce que, effectivement, bon, on va me dire, oui, mais alors, les gens vont rentrer dans les salles de cinéma, et puis ils vont s'installer, ils vont squatter, ils vont dormir. C'est un petit problème. Ça l'a pas empêché de se battre pour le projet, quoi.
Et à cette époque, vous-même, personnellement, vous aviez des... revendication, on va dire, ou une pensée politique particulière, où vous étiez un peu à l'écart de ça, peut-être?
Ah aussi. Non, j'étais dedans et en même temps sans pensée. J'ai jamais eu tellement de pensée politique, d'ailleurs. Non, il y avait tellement de pensée politique à l'époque, d'ailleurs. Ça foisonnait, je peux vous dire. Ah oui. Donc, c'était... La parole avait été libérée.
Alors, elle avait été libérée, mais pas... Enfin, très récemment, en tout cas, parce que justement, La Religieuse de Jacques Rivette, sur lequel vous avez tourné, a fait l'objet...
La parole avait été libérée, mais pas tous les films.
Mais pas l'art, alors. Et donc la religieuse, ça a été un événement, la censure dont le film a fait
oui,
l'objet,
oui,
par
oui,
exemple,
oui.
Parce que c'était une
Je crois que
époque.
c'était Perfide qui était ministre de l'Intérieur. Et oui, c'était interdit. Bon. Personne, c'était une levée de bouclier, mais le film est resté interdit un certain temps quand même. Oui.
Ça a été compliqué de le faire accepter. Vous avez participé un peu au débat ou aux discussions?
Non, je vais être sur d'autres films,
de tout ça.
Bon.
Parce qu'à l'époque, déjà, vous tourniez beaucoup.
Beaucoup, oui. Oui.
Parfois plusieurs films en même temps, j'ai cru.
Ça m'est arrivé une fois, oui. De tourner un film de nuit et un film de jour. Pendant 4-5 jours. Oui.
C'était sur quel film, vous vous souvenez?
Alors, c'était le film de nuit, c'était, je crois, ça se terminait le tournage. C'était Paris où est né Cézol, je ne sais plus le titre français. C'était avec Audrey Hepburn. Et le film de jour, c'était, je faisais les essais d'un film de Jacques Demy qui s'appelle La Baie des Anges.
Pas et n'importe donc, lequel.
Non, c'était un... Non. Et à la fin du film, j'ai pris ma voiture et c'était la fin du film américain, c'est terminé un vendredi. J'ai pris ma voiture le samedi et j'ai recommencé à tourner le tournage propre de le lundi à Nice. Non, c'était une vie intense.
Oui, et pas que pendant cette décennie-là. Vous avez continué.
Non, souvent, après. J'ai beaucoup tourné. Oui.
La Baie des Anges, un souvenir important, j'imagine, pour le joueur de poker que vous êtes, sans vouloir dévoiler.
Non, parce que dans les casinos, on ne jouait pas au poker à l'époque.
Ah bon?
Ah non. Le poker, c'est récent. Non, on jouait, il y avait la roulette, le 30 et 40, etc. Mais je joue aussi à la roulette.
Vous jouez aussi à la roulette?
Oui.
Au casino, beaucoup?
Casino, comme on tournait dans les casinos. En plus, j'avais loué un petit studio à côté du casino de la Méditerranée à l'époque, à Nice. Oui, c'était une erreur.
Il faut être prêt à perdre de l'argent.
J'ai perdu.
Au cinéma aussi, il faut être prêt à en perdre.
On peut en perdre beaucoup, oui, si on met son argent en jeu. Si on met son argent en jeu, on peut le perdre. C'est un énorme risque. Oui. Oui. Mais c'est de moins en moins le cas, parce qu'il y a d'autres façons de produire actuellement. Produit plus comme à l'époque.
Alors là, on arrive à l'orée des années 70, où vous aurez été donc technicien pendant une petite quinzaine d'années, quasiment.
De 15 ans, oui, en gros, oui. Oui.
15 ans fertiles, utiles, que vous avez aimé passer en tant que technicien, ça vous aura...
Mais j'adorais, moi, en plus, je pensais pas du tout devenir metteur en scène, moi, c'était mon travail. C'était très content de gagner très bien ma vie en étant ou assistant opérateur, caméraman ou directeur de la photographie. Ah oui, oui.
Et pourtant, vous allez devenir réalisateur. On en parlera demain pour le prochain épisode. Merci, Claude Zidi.
Bien, merci.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Jean-Christophe Brianchon avec Claude Zidi. À voix nue, réalisation Julie Béressi, prise de son Gilles Gallinaro, attaché de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur l'appli Radio France.